T'es animateur de génie,
mais là,
toi.
Mais il faut.
Bon, en tout cas, le week-end français se termine ouais. Avec ce backlash, avec ce pay-per-view backlash.
Exact.
C'était, on va dire, sportif dans tous les sens du terme. Hier soir, plat apéritif, et ce soir, plat de résistance, si j'ose dire, avec plutôt un SmackDown qui a été sauvé par le public et un backlash qui a été sauvé aussi par le public. Parce que on va en parler un peu précisément. Il semble que on va dire le cœur du show n'ait pas fait l'unanimité, du moins chez les téléspectateurs. Sachant que je suis sûr que si vous posez la question dans la salle, les gens diront que c'est le meilleur show de leur vie, qu'ils n'ont jamais vu ça, etc. Hein. Cependant, ils auront raison parce que c'est un des meilleurs publics de l'histoire. Je ne sais pas si c'est le meilleur parce que ça c'est bien facile de le dire, mais en tout cas ils ont été très bons. Mais c'est vrai que si on s'attarde principalement quand même sur le show, on a eu un très bon opener. On a eu un très bon opener avec le Kevin Owens, Randy Orton versus les Bloodline nouvelle génération là, Solo Sikoa et Tama Tonga avec l'apparition d'un nouveau cousin.
Ouais, non, cousin.
Tangaloa.
Et tu le connaissais, Jugurta, toi, parce que enfin tu le connaissais.
Oui.
Alors oui.
C'est ton cousin.
La New Japan.
New Japan principalement.
Ouais, c'est son demi-frère, c'est des demi-frères en fait. Il est Tama Tonga, l'un des deux, c'est un frère adopté, il a été adopté par
D'accord. Mais c'est son frère.
Voilà, mais c'est son frère, voilà, ils sont considérés comme des frères, oui.
Et donc
mais
oui, vas-y.
Jugurta, c'est Camacho, alors tu sais, à l'époque.
C'est ça. À l'époque de la WWE. Et après, il a quitté la WWE. Et la New Japan, il a été dans le Bullet Club en tant que Tangaloa et en équipe avec Tama Tonga en tant que Guerrillas of Destiny. Donc les deux feront sans doute une probable équipe dans le futur. Mais là, en tout cas, dans la Bloodline, ça ajoute un catcheur très, très, très menaçant. En tout cas, on a pu voir ses débuts. Comme Tama Tonga, ces deux catcheurs qui ne les ont pas manqués, en tout cas, les débuts.
C'est un fait marquant, non, parce que c'est l'intervention de ce nouveau frère, cousin Tangaloa, qui fait gagner la Bloodline face à Kevin Owens et Randy Orton, sachant que, avant que le match débute, Nick Aldis débarque, parce qu'il y a une bagarre au niveau du ring. C'est là où, d'ailleurs, on voit de nombreux catcheurs français qui est intervenu déjà hier à SmackDown. De nombreux catcheurs français indépendants, si j'ose dire. Ils ne sont pas signés à la WWE pour le moment, en tout cas. Ou qu'ils y étaient signés et qu'ils ne le sont plus. Qui sépare les hommes avant que la cloche sonne. Et puis, ensuite, Nick Aldis débarque. Il dit, écoutez, c'est le bordel. On peut pas continuer comme ça. Bim! On change les règles. Ça devient un street fight. Donc, énormément d'utilisation d'objets, beaucoup dans la foule même, les tables, deux ou trois tables cassées, des poubelles, des candlesticks, des chaises, des spots plutôt impressionnants, et ils se donnent vraiment. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi Antoine, de ce premier match là, ou Jordinho qui était là avec nous pour le show. Qu'est-ce que t'as pensé de ce premier match finalement, Jordinho, Jordan?
Oui, je suis là, excusez-moi.
Parfait, ok, je pensais qu'on avait perdu le fil. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier match en deux mots, là, rapidement?
Non, je pense que c'était un très bon match pour ouvrir le show. Tout ce que le public attendait, Street Fight.
C'est ça, qui a été très bien amené.
Qui a été très bien amené par Nick Aldis, d'ailleurs. Avec le petit lâchez-vous en français.
Ah oui, le lâchez-vous en français, oui, ça aussi, ouais. on va le garder, effectivement. Le lâchez-vous en français. Et puis surtout, ça a été plus ou moins teasé hier. Parce que hier, la fin de SmackDown, c'est un brawl dans les coulisses de l'arène, entre ces personnes-là, entre ces deux équipes-là. Donc, il est clair que ça... Mais en tout cas, j'ai trouvé que pour démarrer le show, c'était une très bonne idée, sachant que Kevin Owens et Randy Orton ont pris énormément de temps pour faire leurs entrées, et ça a vraiment chauffé la foule. Mmh. Ça a vraiment montré au public américain et aux autres que c'était là que ça se passait. Et puis voilà, le résultat, pour le coup, est relativement cohérent, même si t'as pas vu le match en entier, Jugurta, ou pas vu le match du tout, même encore, le résultat de la Bloodline qui gagne, ça paraît logique.
Ah oui, tout à fait logique, et surtout, le fait qu'il y ait un nouveau membre, là, c'est une nouvelle histoire de la Bloodline dans la Bloodline, avec un groupe dissident qui se crée, c'est un peu comme la NWO à l'époque,
oui.
La Wolfpack, tout ça, donc là, ça me fait penser un peu à ça, un nouveau groupe qui se crée, dissident, donc c'est tout à fait logique, cette victoire-là.
Logique,
Oui. J'ai hâte de voir le match.
Logique. Comme vous l'avez raconté. Je te dis, le match démarre très bien de chaud. Logique, mais attention, c'est ce qu'on disait. Est-ce que ça va pas devenir un groupe de mid-carter ou de fond de carte? Une fois que la séquence, on va dire, Tribal Chief ou quand Roman Reigns reviendra, est-ce que ça va pas devenir, en rajoutant, on va dire, des puzzles, des Pokémon, là, à un moment, ton Pokédex, il est plein, quoi. Tu sais plus trop quoi en faire. Donc, c'est la question, est-ce qu'il y aura de la place pour toute la famille, tous ces catcheurs talentueux, là, sachant que la plupart sont signés au Japon, à la CMLL, etc., etc. Ils viennent pas de nulle part non plus. Mais,
il faut se poser
la question.
Parce qu'ils sont pas tous connus du public WWE, tu sais, c'est pour ça, qu'on se questionnait, à se demander si le public allait accrocher ou non. Parce que vu qu'ils sont pas tous populaires du public, il va falloir qu'on apprenne à les découvrir, tu sais, parce que pour l'instant, qu'on l'ait ou non, c'est un peu, c'est des no-name pour le fan WWE.
Oui, c'est le fan no-name. C'est vrai que si Michael Cole disait pas qui il était, personne ne le savait. Ça veut dire que même nous, devant l'écran, on s'est posé la question trois fois de dire on le connaît, on le connaît pas, etc., etc. D'ailleurs, que la conférence de presse commence, je précise, on va écouter ça, on va voir s'il y a des choses qui sortent. Deuxième match de la soirée.
Est-ce qu'il les sauve?
Ah, attends, Christophe Ajus qui est là directement.
Avec Byron.
On a plus de son. C'est terrible.
Bonjour tout le monde.
On a plus de son. J'ai envie d'écouter Christophe. Il a bien. Welcome to all of you joining us on our various social media platforms out there. And during the course of this press conference, we have several guests, including the winners of the women's tag team title match. We're joined by the winner of the undisputed WWE championship match, and we'll have some remarks from the chief content officer of WWE, Paul Triple H Levesque. But first, Christoph, I want to start with you. You just called the show. I know you're tired, but I'd like to know from your perspective, what did it mean to have an event like Backlash in your home country?
Unbelievable is not strong enough to describe what we went through the last few months.
Dire que c'était incroyable. After the show, you can understand. C'est pas, même pas assez fort. For that Backlash to be in France, it was awesome. C'était incroyable.
Laissez-moi vous parler un peu français, mon cher Byron.
Français, oula, ça.
Toute la presse qui nous a rejoint ce soir. Alors, si vous voulez participer à cette conférence de presse, nous vous demandons de lever la main, de donner le nom de votre média et, exceptionnellement, puisque nous sommes en France, de poser votre question en français.
Oh, on aurait pu envoyer Mathias. On aurait pu envoyer Mathias. C'est terrible. Ils ont le droit de poser les questions en français. En fait, ils se sont rendu compte, je pense que 90%. Mais Christophe, je pense. Parce que c'est Christophe qui a droit. Bref, on passe au deuxième match de la soirée, qui était le match pour le championnat féminin. Tiffany Stratton versus Naomi versus Bayley. Bayley qui est toujours championne, on peut donner le résultat. Donc, voilà, ça c'est une victoire de Bayley. Le match, alors, était bizarre, pas tant dans le contenu. Ah, on commence par les botches de la soirée, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui était étonnant, c'est que c'était filmé très près, ce match-là, en termes de cadre caméra, et il y avait pas mal de petits botches, mais c'était pas scandaleux, c'était pas le bordel qu'on a eu plus tard dans la soirée, par le match féminin. Victoire logique là aussi, Antoine, pour toi ou?
Ouais, c'est que Bayley, tu sais, est nouvellement championne depuis WrestleMania 40. Puis je pense qu'elle méritait poursuivre ce règne-là. Elle a montré qu'elle était capable de le faire. Bon, c'est une victoire par contre rapide. Moi, je pense que la rivalité, elle va continuer un peu.
Elle va continuer un peu. En tout cas, Bayley qui reste championne pour le coup, Le match, qu'est-ce que t'en as passé, Jordan, de ton souvenir?
Match, je trouve assez correct. Des plans un peu caméra un peu trop serrés, on en avait parlé, qui dénaturaient un peu les prises que Bayley pouvait faire ou les autres. Mais sinon, un bon match et une championne logique, non? Elle était over comme jamais. C'était, je crois, sa plus grosse ovation de sa carrière. Elle a kiffé et c'est beau à voir.
Et quid de Stratton dans le match? Est-ce que pour toi, elle avait sa place aussi dans le...
Bon. Je pense qu'elle avait sa place. Je pense qu'elle était dedans pour vraiment donner un triple menace à la France, pour pas, tu vois, avoir que des matchs simples et basiques, on va dire. Parce que c'était la triple menace, on n'a même pas vu trop de d'armes, etc. Parce que c'est sans disqualification, tu vois.
C'était ça.
Ça a été comme
triple menace, c'est sans disqualification parce qu'il peut y avoir intervention, c'est ça.
Exact.
Oui, c'est ça. Et ça a été assez simple, donc je pense que c'était juste pour avoir le non triple menace qu'ils l'ont mis dedans. Mais c'est une cacheuse talentueuse, quoi. Elle a pas fait de botch non plus, incroyable.
Non, c'est ça. Moi, voilà, c'est ça. C'était étonnant de l'avoir là, mais pas tant, vu que c'était dans la construction de l'histoire. C'est sûr que Bayley qui reste championne, Jugurta, toi non plus, même si t'as pas vu le match, ça te surprend pas.
Non, c'est comme pour les catcheuses ou catcheurs qui deviennent champions après WrestleMania. À Clash, ça a toujours été un show de transition, entre guillemets. Là, comme l'a dit Jordan, voilà, un triple threat pour changer un peu des matchs simples qu'on avait, en plus des matchs par équipe. Donc Bayley qui conserve sa ceinture, c'est logique. Et en plus, Stephanie Stratton qui débute dans le main roster. Et ça permet aussi de la voir elle. Après Naomi, elle était là. C'est aussi un peu un faire-valoir et surtout pour aider Bayley et Stratton à s'élever, l'une en tant que championne pour solidifier son règne et l'autre en tant que jeune pousse qui débarque du côté de du main roster. En tout cas, c'est pas mal.
Sachant que Naomi, c'est elle qui prend le tombé.
Ouais.
Pendant quelques instants, on se dit, est-ce qu'il va y avoir heel turn ou équivalent, dirons-nous. Et puis finalement,
Bloodline, attention.
C'est câlin. Et puis finalement, il y a rien qui s'est passé. Bayley toujours championne dans un match plutôt correct, qui était divertissant avec ces nouveaux angles de caméra là. À voir si ça ne dessert pas plus les catcheuses ou les catcheurs pour autre chose, on verra là. Mais c'est vrai que ça mettait un peu en valeur les petites erreurs, les petites inexactitudes techniques. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est essayé.
Puis ça, comme dit Stradi dans le chat, là, tu sais, c'était un peu nerd, mais dans le sens que je pense que si la foule était pas là, moi, je pense qu'on n'aurait pas aimé ce match-là beaucoup.
Peut-être que c'était la foule a sauvé cette partie-là. Troisième match de la soirée, Jey Uso et Damien Priest qui est champion pour le titre mondial. Un match simple, pour le coup, mais avec intervention. Il y a eu des interventions. J.D. McDonald's, et Finn Bálor aussi, ouais, qui est intervenu. Voilà. Les deux sont intervenus. Pareil. Que dire de ce match? Le match était correct, lui aussi, était plutôt techniquement au point. C'est sûr que les interventions étaient un peu téléphonées. On voit qu'il y a des tensions dans la Judgment Day. Ben, ça fait un petit moment qu'on le voit. On pensait que ça pouvait exploser ce soir. Ça n'a pas explosé, Antoine. Je ne sais pas ce que tu en as pensé de ce match et même de l'histoire qu'il y a derrière.
Non, mais l'histoire est à surveiller, tu sais, parce qu'après le match, Damien Priest, qui remet à l'ordre ses deux partenaires, qui attaque Jey Uso. Parce que ça va être à surveiller à Raw, jusqu'où ça va aller, parce qu'on sait que Damien Priest veut garder le contrôle malgré tout. Mais tu sais, le match a pris un petit peu de temps à décoller, mais par contre, la suite, c'était à voir, mais c'était bien. Je veux dire, mais c'était plus technique et plus rapide qu'avec WrestleMania 40 et qu'on eut entre les deux frères, ça c'est sûr.
C'est sûr qu'on aurait pu avoir peur au vu du match à WrestleMania, pas tant que la hype autour de Jey s'arrête, parce qu'on a vu dans la salle là aussi, même si cette salle était un peu particulière, le contexte était un peu particulier, on pouvait penser que ça serait un peu plus compliqué pour lui. Finalement, techniquement, c'était correct. Damien Priest gère très bien son début de règne. On verra ce que ça donne. Je crois qu'il va être Damien Priest va combattre Aro pour le King of Ring là déjà.
Pense pas.
Non, il a pas annoncé Damien Priest.
Si,
je me trompe peut-être.
Ah, mais je sais pas où tu l'as vu, mais si tu le dis, d'accord.
C'est une énorme connerie, hein, c'est possible.
Là, c'est Finn Bálor.
Ah, c'est Finn Bálor. C'est Finn Bálor. Autant pour moi. Qui va combattre. Donc lui, il va. C'est qui le prochain là candidat au titre de ce championnat là? Personne. Les tensions.
Nouvelles qualifications.
Ouais, c'est ça. Les tensions. Mais ça risque de repartir sur un tour en tout cas de ça. Bon, en tout cas, victoire de Damien Priest qui garde sa ceinture. Donc là, si on comptabilise, Bayley garde sa ceinture. Damien Priest gagne sa ceinture. On est dans la logique.
Mais du coup, moi, je me disais, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, pourquoi pas à King of the Ring, s'il y a, imaginons, défense de titre, et que la Judgment Day, ça se détruit en deux semaines, un petit Damien Priest, Finn Balor, tu vois.
Oui, c'est il y a peut-être une logique vu qu'il y a des dysfonctionnements qui se laissent entendre qui se laissent voir. Effectivement, c'est peut-être la logique. D'ailleurs, dans le chat, on nous dit Balor va entrer en rivalité avec Priest par joli dit-il mandat qui lui a échappé. Ça peut être effectivement une théorie. Ça voudrait dire qu'il perdrait finalement lors de son prochain combat de qualification. Alors,
oui, mais ça peut être à cause, tu vois, de Damien Priest. C'est possible.
Qui interviendrait comme l'autre est intervenu dans son match qui aurait pu lui faire perdre, finalement.
C'est possible.
Ok. À voir. En tout cas, c'est à suivre dans les prochaines semaines. Alors là, on passe au match qui va faire beaucoup parler. D'ailleurs, les filles qui ont participé, une des équipes qui a participé est actuellement à la conférence de presse. Les Kabuki Warriors, qui sont championnes, donc ça c'est pour le titre féminin par équipe, contre, donc c'est Kairi Sane et Asuka, contre Bianca Belair et Jade Cargill. Alors là, on ne sait pas ce qui s'est passé, le match en lui-même, bon, match classique, si j'ose dire. Et puis à un moment, ils perdent le fil, notamment dans qui est la personne légale sur le ring. Et là, c'est catastrophe. L'arbitre ne sait plus où il est. L'arbitre ne sait plus où il est. Les catcheuses ne savent plus quoi faire. Est-ce que machin devait être là? Est-ce que machine devait être là ou pas? Placé différemment. Et alors là, ça enchaîne un 3-4 minutes de flottement comme rarement vu en direct.
C'est compliqué.
Dans du catch, enfin du moins de ma courte carrière dans le catch. Non mais c'est impressionnant. Alors c'est normal, hein, il peut y avoir des erreurs, c'est un spectacle en direct.
Ben oui.
On n'est pas, c'est pas pour dire. Mais là, ça a manqué clairement, je trouve, de un peu de professionnalisme, un peu de d'idées. Et puis personne s'est aidé. Hein. Personne s'est aidé. À chaque fois qu'il tentait de faire quelque chose, l'autre le rembarrait. Puis quand il le rembarrait pas, l'autre ne faisait pas. C'était assez terrible. Franchement, il faudrait isoler. Bon, c'est pas très bien pour elle parce que les pauvres, c'est bon, on va pas non plus les mettre au pilori. Quoique en France, on pourrait. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Je sais pas si vous avez des souvenirs, toi, Jugurta, qui regarde beaucoup plus de catch que nous, des moments où tu t'étais, de ce genre de match où tu t'es dit, mais attends, ils savent plus quoi faire, ils ont bien un spot, personne leur dit rien. Est-ce que ça te rappelle des trucs ou non? C'est aussi, c'est un peu inédit.
Ouais, c'est plus. Après, la EW, dans la division féminine, il y a quelques temps, enfin, pas maintenant, hein, mais il y a quelques années, lorsqu'ils l'avaient lancé, on voyait ça. À la WWE, pareil aussi, avec quelques matchs féminins où on semblait que les catcheuses étaient perdues. Après, souvenez-vous de Charlotte Nia Jax, lorsqu'elle s'était mise sur la gueule. À un moment donné, elles avaient tout lâché, il n'y avait plus de script. Elles se mettaient juste sur la gueule. Donc,
après,
des matchs comme ça.
On parle des filles, mais on se rappelle aussi d'un Brock Lesnar, Braun Strowman.
Strowman.
Où c'est n'importe quoi aussi, hein.
Je sais pas si tu
l'as vu, si t'as revu cette séquence-là. Où il se fout des vrais coups. Ça devient l'UFC, le truc. Ça dure 15 secondes, hein. Mais, c'est sûr que ça arrive aussi chez les gars, hein. Mais là, pour le coup, c'était difficile. Vraiment difficile. Et puis le nombre de botches au-delà de la difficulté. Alors l'incompréhension amène les botches, je comprends. Mais là aussi, des plans extrêmement serrés, des botches à l'appel, de l'incompréhension. Honnêtement, j'ai rarement vu ça. En vrai, ça a étudié, je pense, ça a étudié dans les écoles de catch ou de je sais pas quoi.
Non, mais tout le monde a appris de ses erreurs, c'est sûr.
C'est ça. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Ça serait intéressant aussi de suivre un peu les dirt sheets et tout, voir s'il y a des retours sur ça, parce que souvent, est-ce qu'ils étaient contents de leur performance, pas contents de leur performance, est-ce qu'il y a eu des engueulades, pas d'engueulades, on va le savoir certainement très rapidement. En tout cas, qui gagne à la fin, c'est Bianca Belair et Jade Cargill. Mais Jade Cargill, au-delà de ses errements, dirons-nous, Jade Cargill, elle a fait quoi pendant ce match, Antoine? C'est toi qui le remarquais, là?
Non, mais elle a pas fait grand chose. Elle a attendu la tag. Après ça, elle est rentrée dans le match. Mais qu'est-ce qu'on avait noté? C'était qu'il manquait de fluidité. C'était ça le mot-clé, mais qu'on avait noté, pendant le live et tous ensemble. C'est que peut-être l'exécution des prises, manquait de fluidité. Puis aussi, mais quand elle recevait des coups, des fois, c'était très
mécanique, très, oui. Un peu, il tapait un monolithe. Il tapait un bout de bois, quoi.
Exact.
Et Jordinho, toi, c'était quoi ton sentiment? Et puis Jade Cargill, l'utilisation de Jade Cargill dans ce match?
Bah, c'était nul.
Ah, bon, ben voilà. Au moins, il passe pas par quatre chemins.
Mais non, mais c'est pas compliqué. Mais si c'est une autre superstar qui fait ça et qui est pas construite comme Jade Cargill, on dit que c'est nul. Donc, désolé, c'est bête à dire. On n'a pas vu un seul vrai match d'elle. Le premier match où elle peut un minimum se donner pour des titres dans un PLE, elle fait ça. On voit qu'il y avait quand même pas mal de trucs assez téléphonés, comme on disait qu'il manquait de fluidité. Alors, ok, l'arbitre n'a pas non plus aidé, et on avait aussi vu Bianca Belair qui normalement aurait peut-être dû être dans le ring à un moment donné, elle n'y était pas. Mais ça peut pas tout excuser. À part son bel enchaînement à la fin pour gagner, je vois pas où elle a été incroyable non plus dans le ring et comme on peut nous la vendre. Parce que moi qui regardais pas le W au début, je me suis dit, bah, ok, c'est une grosse catcheuse, mais au final, compliqué.
À la EW, c'est ce qu'on lui reprochait, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, quand tu lui mets un coup, elle vend pas assez les coups, elle reste stoïque, elle ne bouge pas, elle a encore ces soucis-là, c'est ce qu'on avait remarqué à l'époque à la EW, un peu trop robotique, et les prises aussi qui sont un peu botchées, il n'y a pas une grosse maîtrise technique dessus, comme vous l'avez décrit, moi j'ai pas vu vraiment ces prises-là, mais comme vous le décrivez, c'est ces problèmes-là qu'elle avait à la EW, on voit que ça n'a pas été gommé encore, donc il faut lui laisser du temps, je pense, mais enfin, j'espère ça va se corriger, parce que là, elle est vraiment dans le spotlight. Là, c'est elle est championne, en plus avec Bianca Belair. J'espère que Bianca Belair va réussir à l'élever avec elle, tu vois.
Mais je pense que...
Mais c'est ce qu'on en parlait avec Monkey, et on disait, est-ce que le fait qu'elle soit venue de la EW et qu'elle soit montée aussi vite ne l'a pas aussi desservie, tu vois. Elle aurait peut-être dû passer par le Performance Center, mais une Jade Cargill qui va un peu à NXT pour se construire, ça aurait pas été plus mal, tu vois.
Après, ils l'ont gardé, Antoine.
De septembre à janvier, elle a juste fait du Performance Center.
Okay. C'est ça.
Mais, mais backstage. Mais, ouais. Puis comme dit, CM Punk est de retour. Il dit que c'est moi où, en vrai, ce PLE serait passé n'importe où avec un public un peu endormi et ça aurait été un PLE nul.
Oui, on en parlera à la fin, mais clairement, clairement que le public a sauvé.
Même ce match-là, parce que quand il y avait des botches, je me sentais des six awesome. Je veux dire, après, on a rigolé.
Après, en même temps, tu sais, la question devrait être presque posée à quelqu'un qui n'a aucun affect avec le pays où ça s'est passé. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire que, même si Jordino est belge, mais ce que je veux dire,
ouais,
c'est la francophonie, puis au-delà de ça, on est vraiment, pour le coup, t'es à côté, quoi. Jugurta, il est du sud de la France. Moi, je suis français, même si j'habite à l'étranger. Mathias était dans la foule et il est français également. Et tous les gens sur les réseaux sociaux qu'on suit, c'est des français, entre guillemets. Je fais des gros guillemets, autour de ça. C'est normal que même le show, objectivement, le show a lieu à Baltimore. On se fait chier comme des rats. Clairement, c'est sur le ring, t'as un bon match au début, un bon match à la fin, au milieu c'est moyen, on se serait regardé, on se serait dit, ah bon, d'accord, on a passé une après-midi à regarder ça. Et imaginez que c'est aux heures en plus américaines, donc ça aurait été une soirée à regarder.
Et ça, c'est plus digeste parce que c'est 19h aussi, c'est ça.
Et c'est peut-être aussi un peu digeste parce que nous c'est une après-midi, vous c'est 19h, bam, ça fonctionne. Donc, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, le public a sauvé le show, mais il serait intéressant de poser la question à quelqu'un qui n'a aucune affect avec la France, qui s'en fout, que ça soit en France, au Portugal, en Espagne ou peu ailleurs, et un Américain ou un Canadien qui s'en branle complètement, peut-être qu'il va te dire, ben non, le show était merdique. Même le public m'a fait chier, j'ai coupé le son. Tu sais, on n'en sait rien, tu sais, c'est possible, hein.
Mais c'est ça, parce que les...
Ça se pourrait, mais blague à part.
Tu sais, un mec du Kentucky, là, il a peut-être rien à carrer d'entendre les simplement deux, ça le fait marrer la première fois, et puis après, ça le gonfle, oui, il s'est phénoménal,
c'est pas gentil,
Oui, c'est ça. Oui. C'est quand même très marqué culturellement, mais c'est un vrai sujet. En tout cas, revenons juste rapidement sur le main event, pour le dernier match de la soirée. C'est AJ Styles, Cody Rhodes qui gagne le titre. Ça, il y avait aucun super match. Bah, pour le coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un vrai match de pay-per-view, de main event? Jugurta, vas-y, tu as l'air de vouloir. C'est le seul match que t'as vu de la soirée, donc vas-y.
Oui,
vas-y.
Non, vraiment, le match était vraiment très bon. C'était vraiment un bon match de pay-per-view. Un AJ Styles au top de sa forme, un Cody Rhodes. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut deux catcheurs pour que les prises passent très bien. On a pu voir plusieurs prises, plusieurs enchaînements, plusieurs contres. C'est ce qu'on veut dans un main event, dans un match basique déjà de base. et dans un match pour le titre aussi. Et pour la stat, c'est la troisième victoire consécutive lors d'un backlash pour Cody Rhodes. Il l'avait affronté Seth Rollins il y a 3 ans. L'année dernière, il a battu Brock Lesnar et cette année, il bat AJ Styles. Et lors des 2 dernières années, il était en main event. Donc c'est assez exceptionnel pour Cody Rhodes. Donc une très très belle stat et surtout pour le pay-per-view. L'année dernière, on était à Puerto Rico et cette année, on est en France. Pour moi, c'est assez similaire. L'ambiance à Puerto Rico, elle était exceptionnelle et l'ambiance en France, c'est la même chose. Elle est aussi exceptionnelle cette année. Donc Backlash cette année et l'année dernière, c'est vraiment 2 foules immenses. Et bien sûr, notre préférence ira bien sûr vers
Puerto Rico, la France. On a compris. Ah
non. Parce que on a des origines de Puerto Rico, bien sûr.
C'est ça, donc obligé.
Non, vraiment, le match était excellent. Un bon moyen de clore le show, mais dans sa globalité, comme on peut le voir, s'il n'y avait pas cette ambiance-là, ce serait un show mineur, on va dire basique, qui se déroule. On a parlé de Kentucky tout à l'heure, ben on va rester dans le Kentucky. Un show.
Kentucky. Un show
voilà.
Du Kentucky qui sent la bouse, quoi. Jordan, sur ce match, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que ça sauve un peu ta soirée?
Bah, ça a été un très très bon match, on peut pas dire le contraire. Après, je pense réellement que les deux plus beaux matchs de la soirée, c'est clairement là où les superstars ont pris aussi du plaisir avec la foule.
Oui.
Tu vois, il y a eu une certaine osmose avec la foule, qui fait que tu pouvais rendre le match que meilleur. Cody Rhodes sait jouer avec la foule, AJ Styles pareil. Tu sais, quand tu t'arrêtes, que tu fais des jeux un peu chusoulés, la foule va repartir dans il est vraiment phénoménal, tu le sais. Tu vois, c'est plein de petits trucs où tu te dis, ils savent jouer avec la foule et ça peut rendre que les matchs meilleurs. Donc, ouais, c'est un très bon match et c'est, AJ Styles, de manière, c'est un très bon catcheur et Cody Rhodes, quand il a un très très grand catcheur en face de lui, ça restera toujours un bon match. Donc, que dire?
Toi, Antoine, sur ce match?
Non, mais c'est ça, mais je vais pas répéter ce qu'ils ont dit. Mais oui, c'est le match de la soirée. Donc, s'il y a un match à voir, c'est effectivement ce match-là, mais si vous voulez pas regarder, tout le PLE, parce que vous êtes Canadien, vous voulez pas entendre des Français crier.
Tout pendant 2 heures et demie, ouais.
Exact. Ben, vous pouvez regarder seulement ce match-là.
En tout cas, un match très technique, avec un Cody Rhodes et un AJ Styles qui ont livré la marchandise, comme on dit, dans ce beau pays et ailleurs. Après, c'est quoi la suite pour Cody Rhodes, là? C'est quoi la suite immédiate pour Cody Rhodes? Parce que, première défense de titre, il va certainement être en Arabie Saoudite, peut-être, j'imagine.
Sûrement, peut-être. Mais c'est le draft qui commence cette semaine. Donc, il y aura des nouvelles rivalités qui vont commencer aussi.
C'est ça. Est-ce qu'on peut se projeter sur Cody Rhodes, futur adversaire de Cody Rhodes? C'est quoi, ça vous paraît?
Sachez que ce week-end, il y en a qui parlaient c'était quoi les noms qui étaient mentionnés dans le chat? Sauvez-moi, les amis du chat, là. Vous n'avez même mentionné une coupe.
Mais peut-être que Jugurta va nous aider en attendant, je sais pas.
Une coupe?
Non, pas une coupe, Ah. Non, mais ce que je veux dire, quel adversaire, oui, Jordan?
Quand on y pense, c'est peut-être un peu trop tôt, mais il y a Solo aussi, hein. Qui veut être dans la bloodline, qui veut montrer qu'il est plus fort que son cousin, récupérer le titre, tu vois?
Ouais.
Il y a une histoire à faire, hein, pour Roman Reigns.
Ah, ça peut être pas mal, mais je pense qu'il va d'abord régler les problèmes de la Bloodline avec son intervention lors du match du cousin, quoi. Donc, je pense du frère. Donc, je pense que ce sera plus ça. Après, un adversaire pour Cody Rhodes, c'est vrai que j'ai aucun nom qui vienne d'un.
Mais là, comme ça, c'est compliqué. Là, je ne sais pas si lui va.
Et Jay Styles, peut-être que c'est le premier match d'une série de 3 matchs ou de 2 avec AJ Styles. Peut-être que ce n'est pas encore terminé pour lui, cette rivalité. À voir. Moi, j'irais plus vers une continuité
de rivalité
avec AJ Styles. Il y a d'autres pay-per-view qui vont arriver, donc ça serait.
On va avoir 2 ou 3 fois AJ Styles dans le.
Ok. Ouais, ça me dérangerait pas.
Non, c'est pas dérangeant, mais enfin, ça fait pas avancer le schmilblick, quoi. Ça fait pas avancer grand-chose.
Ah, c'est sûr.
Donc il y a pas de temps de faire une rivalité.
Ouais, on verra. De toute façon, c'est Queen of the Ring qui est mis à l'avant pour l'Arabie Saoudite, donc on verra.
Ouais.
Mais c'est sûr que c'est la vraie une vraie question qui va se poser. Ange, alors pour conclure sur ce show quand même, on en a déjà un peu parlé, mais Antoine.
Ouais, mais si vous avez une note à mettre dans le chat, vous pouvez mettre une note quand même sur 10 dans le chat, comme ça, ça va nous donner une idée mais globale.
C'est vrai, c'est vrai.
De votre vision, voir si on partage.
Moi, honnêtement, je mets 6. Regardez, je mets 6.
Le même avis.
Hop.
Mais 6. Mon Dieu, mais 3.5 sur 10.
Ouais, il y en a qui sont durs, là. Il y en a qui sont durs dans le, dans le 7. OK, parce que littéralement. Alors, pareil, est-ce que vous mettez 8 ou vous mettez 7 ou parce qu'il y avait la foule ou c'est vraiment le in-ring aussi qui vous a. Non, intéressé.
C'est sûr qu'il est difficile parce que j'ai l'impression que si tu prends le même show, tu le mets aux États-Unis.
C'est 4 ou 3.
Oui, non, mais c'est ça, je pense qu'on serait tout fait chier parce qu'on serait dit, il n'y a pas de nouveau champion marquant, il n'y a pas de moment marquant. Tu sais, je dis, mais je suis désolé, là, mais quel moment est marquant ce soir? Mais quel moment tu te dis, mais genre, je vais m'en rappeler pour toute ma semaine?
Ah, ben, les fails là, de bon, Jacques Carrier et compagnie, là.
C'est ça, donc je pense pas, mais que si c'est aux États-Unis, mais c'est vraiment marquant, tu te dis, mais que c'est les fails de Jacques Carrier, puis les chants de la foule. Mais non, mais tu sais, mais c'est ça, mais que tu retiens au final, mais de Backlash France. Tu sais, c'est les fails, puis la foule. Donc je pense que si t'enlèves la foule, ben, peut-être le show est plus difficile, mais vu que qu'est-ce qu'on a eu, mais moi aussi, je mettrais 6-7, et je vous rejoins, là.
Ah, ben voilà, parce que Mathias n'a plus de batterie pour venir nous parler, mais il est capable de mettre des messages à la con dans le chat. C'est incroyable ce type. 10 bordel. Ben voilà. Mais voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Attention, vous allez vous allez vous faire engueuler, vous allez vous faire assassiner si vous dites que le show est plus que moyen.
Après, c'est différent quand tu le vis, c'est vrai que c'est différent. Quand tu le vis en direct, live, sur place. Et quand tu le vis à la télévision, c'est sûr qu'à la télévision, on a cette pointe d'émotion quand on le regarde nous, parce que c'est en France, mais on est quand même assez objectif pour analyser le show dans sa globalité. Quand tu es sur place en train de regarder le show comme Mathias, tu ne peux pas avoir d'objectivité.
Ah, mais nous aussi, on aurait mis 10.
Ah oui, on aurait mis 10, c'est ça. C'est vraiment dans l'émotion. Mathias, il est vraiment dans l'émotion, donc je le comprends. Je comprends qu'il dise qu'il adore à 100%. Ouais. Ça, c'est sûr.
Et là, on va juste switcher sur la conférence de presse.
Sur la conférence, parce que Monsieur Triple H, pour le moment, rien n'a été exceptionnel. Merci de nous avoir suivis, d'ailleurs, sur YouTube. Je pense que c'est là.
Merci YouTube. N'oubliez pas, l'actualité se passe sur 4chiranews avec un z.com ou .fr pour les Jugurta.
Ah. Les team.
Merci. Ça part.
Papa H est là. Papa H est là. Il va nous expliquer pendant 45 minutes qu'il n'a pas payé la salle, qui...